Merci Loïc Bussière.
Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
François Bernard.
Alors que se profile l'élection présidentielle en France, indiscutablement le rendez-vous le plus important de la démocratie du pays, les partis et les personnalités politiques s'organisent, les candidatures se multiplient, les stratégies se mettent en place, les alliances se nouent, on évoque cette effervescence sur RFI maintenant, c'est dimanche politique et notre invité c'est Erwan Lestrand. Bonsoir Erwan Lestrand.
Bonsoir.
Vous êtes directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Anne Hidalgo, maire de Paris, membre du Parti Socialiste, a déclaré aujourd'hui sa candidature à la présidence de la République. On l'écoute.
Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
Anne Hidalgo, Erwan Lestrand, Anne Hidalgo, c'est un poids lourd de la politique en France qui entre dans le jeu présidentiel.
Alors oui, c'est une personnalité politique de premier plan, la candidate que l'on pourrait qualifier de naturelle d'un des partis qui a le plus structuré la vie politique française des 50 dernières années. Pour autant, pour citer son prédécesseur, Bertrand Delanoë a été l'exemple qu'un bilan et des réussites sur le plan local n'étaient pas un gage de réussite nationale. Il avait par exemple échoué à prendre la tête du Parti Socialiste en 2008 et il n'a pas exercé de responsabilité nationale après son départ de la mairie de Paris. Donc pour Anne Hidalgo, qui est une personnalité politique de premier plan, l'enjeu, ça va être quand même d'élargir la base de ses soutiens pour renforcer sa stature présidentielle, voire réussir le défi de réunir la gauche. Mais aujourd'hui, seuls 20% des Français déclarent qu'ils la soutiennent ou éprouvent de la sympathie pour elle, ce qui est encore limité.
Anne Hidalgo, membre du Parti Socialiste, je le disais, mais aussi écologiste pratiquante à la mairie de Paris, avec les mêmes ambitions à l'échelon national. Écoutez.
Je porterai un plan sur 5 ans pour décarboner notre économie, sortir des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.
Alors est-ce que Anne Hidalgo, Erwan Lestrand, peut prendre des voix au parti étiqueté officiellement écologiste, Europe Écologie, Les Verts par exemple ?
Oui, en effet. Après, c'est le résultat de la primaire écologiste qui indiquera dans quelle mesure le candidat élu occupe un espace politique qui est concurrent du sien. Évidemment, un succès de Yannick Jadot lui serait préjudiciable parce qu'ils ont des positions proches sur de nombreux sujets. Mais la désignation, par exemple, de Sandrine Rousseau, qui est plus radicale, ça permettrait peut-être à Anne Hidalgo de bénéficier peut-être plus fortement de l'attention des écologistes plus centristes.
Alors, la problématique environnementale est devenue commune à l'ensemble de l'échiquier politique. Est-ce que le fait d'être au-delà des mots et dans la pratique, dans la capitale Paris, avec des décisions fortes et parfois contestées, est-ce que cela peut être un avantage pour Anne Hidalgo ?
Oui, bien entendu. C'est vrai que Anne Hidalgo, elle coche de nombreuses cases vertes et elle formule non seulement des propositions écologistes, mais elle a aussi des preuves tangibles de son engagement concret à travers ses mesures anti-pollution, à travers ses mesures de limitation de la place de l'automobile à Paris, qui ont une forte résonance. Et la preuve concrète de ce qu'on fait, c'est évidemment un élément auquel les Français sont sensibles dans leur réflexion électorale, bien plus que les propositions.
En tout cas, aussitôt entrée dans l'arène, Anne Hidalgo est attaquée comme il se doit par la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Écoutez le patron des députés LREM, Christophe Castaner.
Oui, elle joue beaucoup, tout comme elle a joué avec les Parisiens quand elle leur a écrit noir sur blanc « Je ne serai en aucun cas candidate à la présidence de la République ». Elle joue avec l'équité. Nous parlions des retraites il y a quelques instants. Vous savez par exemple que les 35 heures s'appliquent dans notre pays depuis quelques années. Eh bien pas à la mairie de Paris. Parce qu'à la mairie de Paris, Mme Hidalgo a fait une proposition pour qu'on travaille moins que 35 heures.
Christophe Castaner, dans un entretien, c'était un samedi à l'Express, qui considère que Marine Le Pen aussi reste la première adversaire d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on y croit toujours à ce duel final, Erwan Lestrand, entre Macron et Le Pen au deuxième tour ?
Disons que c'est celui qui se profile dans les sondages qui sont réalisés aujourd'hui. Ça n'est pas un pronostic. Dans l'état des rapports de force électoraux aujourd'hui, le deuxième tour opposerait Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est vrai que c'est la figure centrale du Rassemblement national. Et c'est sa candidature qui permettra au parti d'accéder au second tour. C'est nécessairement un atout pour le Rassemblement national. C'est celle qui incarne le mieux à la fois l'héritage du passé et la modernisation du mouvement, sa normalisation, ses préoccupations populaires. En revanche, on peut faire l'hypothèse que sa stature présidentielle ou sa capacité à gouverner sont encore réduites au-delà du socle Rassemblement national et pâtissent encore de son débat de l'entre-deux-tours où son attitude avait pour le moins surpris une partie des Français.
Marine Le Pen, en tout cas, y croit, pas seulement à l'accès au second tour, mais aussi à la victoire finale. Écoutez.
Il y a des batailles qu'on n'a pas le droit de perdre.
Amis nationaux, l'élection présidentielle de 2022 est de celle-là. Et parce que nous n'avons pas le droit de la perdre, nous allons la gagner.
Voilà, Marine Le Pen, tout à l'heure, devant le Rassemblement national à Fréjus, elle reste un atout hein, pour son parti. Enfin, c'est la question que je vous pose, c'est la seule chance d'accéder au pouvoir pour l'extrême droite, Marine Le Pen, en ce moment.
Ça reste la candidate vraiment centrale sur cet espace politique. On ne voit pas d'autres figures à même d'accéder au second tour en portant les revendications de cet espace politique. Donc oui, ça reste l'atout fort pour son parti. Maintenant, on voit des candidatures émerger qui sont susceptibles, pas forcément de la concurrencer, mais de baisser un peu les intentions de vote qui se dirigeraient vers elle.
Justement, à l'hypothèse d'une candidature d'Éric Zemmour, parasite un petit peu la rentrée de la présidente et candidate Marine Le Pen, qu'elle inquiète au Rassemblement national. Ils ont raison d'être inquiets au RN.
Ben alors c'est vrai que c'est un point intéressant parce que la candidature d'Éric Zemmour aujourd'hui, elle n'est pas entourée d'une dynamique telle qu'il pourrait jouer les premiers rôles dans le scrutin. Mais avec 7 à 8% des intentions de vote, il peut jouer les troubles faits et par exemple prendre à Marine Le Pen des points lui permettant d'accéder au second tour. En abaissant le score de Marine Le Pen, s'il lui prend des points, il abaisse aussi le seuil d'accès au second tour, et cela pourrait notamment faire le jeu d'un Xavier Bertrand, voire d'un candidat de la gauche réunie qui en profiterait pour passer devant Marine Le Pen.
Marine Le Pen qui déclarait hier « Nous, on a de la chance d'avoir une candidate, ce qui permet de commencer la campagne pendant que d'autres en sont encore à se choisir un candidat ». Et à droite, est-ce que les appels à l'unité donc de tous les postulants à la candidature vont, vous pensez, empêcher les luttes fratricides comme on en a vu en 2017 ?
Alors c'est assez difficile, c'est vrai que pour citer Julien Drey qui parlait de la gauche il y a quelques jours, il disait que c'est vrai que les différentes parties de gauche avaient passé l'année dernière à dire qu'il fallait se réunir et annoncent successivement tous des candidatures indépendantes. Donc il se passe la même chose à droite. C'est vrai que pour la droite, ils vont devoir éviter les querelles politiques qui ont émaillé la présidentielle 2017 et faire un choix entre une primaire qui permet de désigner le candidat le plus proche des sympathisants et assure leur mobilisation, ou alors d'éviter cette élection qui est génératrice de tensions internes pour faire le choix d'un candidat à même de réunir plus largement que les Républicains, de remporter l'élection présidentielle. Mais là, la désignation de ce candidat, on ne sait pas encore comment elle pourrait s'opérer.
Surtout que Xavier Bertrand, on le sait, n'est pas du tout d'accord pour participer à cette primaire.
Oui, absolument. Et puis c'est vrai qu'il est hors du processus de désignation. On le voit par exemple avec Arnaud Montebourg aussi, hein, qui juge les primaires trop identitaires pour réunir. Ça pose aussi la question de réussir à trouver une clé pour réunir toutes les familles de la droite et une maison commune de la droite dans laquelle se retrouveraient aussi bien Xavier Bertrand que Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez.
Alors certains pensent que le jeu politique a profondément changé depuis la dernière présidentielle en France. Écoutez ce que disait sur France Inter François Bayrou, tout à l'heure.
L'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a bouleversé un ordre qu'on croyait établi pour longtemps, qui était le règne conjoint des deux tours jumelles du grand parti de droite et du grand parti de gauche. Ça a fait naître en même temps des conduites, des concurrences, des affrontements qui sont presque plus idéologiques, qui sont personnels, qui sont des batailles d'égo. Je pense que tout ça ajoute à l'incertitude ambiante. On est dans un moment de profond bouleversement dans les esprits.
Des profonds bouleversements dans les esprits. Erwan Lestron, est-ce que cela peut aboutir à un résultat inattendu à la présidentielle d'avril ?
Alors, sur ce genre de cas de figure, j'aime souvent citer un sondage de BVA de décembre 1980. 76% des Français à l'époque, donc 4 mois avant le scrutin, 76% des Français, les trois quarts, pensaient que Valéry Giscard d'Estaing allait être réélu. Donc évidemment, le jeu politique reste imprévisible. Et il y a aussi un point qu'il faut pas nier, c'est que d'autres clivages se sont introduits. On parle des progressistes ou du camp de la raison contre les populistes, des souverainistes contre les Européens, des gens qui se sentent appartenir à un territoire en particulier contre d'autres qui se sentent bien n'importe où. Donc évidemment, il y a d'autres clivages qui se sont superposés à la grille de lecture du paysage politique français. Pour autant, 7 Français sur 10 peuvent encore se placer sur l'axe gauche-droite, et les dernières élections locales, surtout, ont montré que la gauche et la droite parlaient encore aux électeurs.
L'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, c'est le parti de Jean-Christophe Lagarde, il va choisir en novembre son candidat pour la présidentielle, issu de ses rangs ou de la droite républicaine, dit-il. Si les deux options sont sur la table, Jean-Christophe Lagarde dit que celle de soutenir Emmanuel Macron n'en est pas une. Est-ce que cette hostilité des centristes, finalement, peut ou doit être un sujet d'inquiétude pour le président Macron, qui, lui aussi, occupe d'une certaine manière un positionnement plutôt centriste ?
Oui, ça dessert un peu sa base électorale. Pour vous donner des chiffres, en 2017, la moitié des sympathisants UDI avaient voté pour François Fillon et 36% avaient voté pour Emmanuel Macron. Donc nécessairement, c'est des suffrages qui n'iraient pas à Emmanuel Macron, mais on voit bien que l'UDI, ils sont sortis de 2017. Ils se situent aujourd'hui dans une idéologie d'un bloc de droite qui se consolide pour éviter le délitement qu'ils ont connu en 2017, et l'UDI revient quelque part dans sa famille politique d'origine, aux côtés des Républicains, ou alors porteur d'une candidature indépendante de centre-droit, mais en tout cas dans sa famille politique d'origine, et non dans un délitement dont elle a pâti en 2017.
Mmh. Erwan Lestran, merci de ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Merci et bonsoir.